Alors, je souhaitais vous parler aujourd'hui de ce qui me paraît être caractéristique de l'école Theravada à laquelle cette association est affiliée. Je n'épuiserai pas le sujet aujourd'hui. J'ai l'intention d'en continuer la présentation dans 15 jours, quand on se revoit. Hein, c'est dans 15 jours, le 2 février, dimanche 2 février. Et puis, d'une certaine manière, ça fera aussi l'objet de la prochaine retraite que nous organisons pendant le week-end de Pâques. Les informations vont être bientôt mises sur le site, puisque les dernières décisions ont été prises il y a quelques jours seulement. Donc, si jamais ça vous intéresse, on organise une retraite en Bourgogne, près de la ville de Cluny, à quelques kilomètres de la ville de Cluny, le week-end de Pâques, donc ça commence le vendredi soir et ça se termine le lundi en fin d'après-midi. Dans un très beau domaine, vous avez des photos sur le site, si vous voulez voir exactement comment c'est. Le sujet donc, c'est celui que j'ai appelé les entraînements. La plupart des Occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme veulent devenir des méditants. On veut apprendre à méditer, le bouddhisme c'est la méditation, mais le problème c'est que ce terme-là, outre que vous ne trouverez pas un seul mot dans la langue indienne qui traduit réellement méditation et méditer, ce qu'on entend par pratique de la méditation, ce n'est pas la seule pratique du bouddhisme, c'est une des pratiques du bouddhisme, et c'est un exemple de pratique dans un ensemble de pratiques. Alors c'est vrai que ce que nous appelons la méditation, c'est-à-dire certaines pratiques qui se font dans la posture assise, ou en marche, ou couchée, même parfois, ou debout comme nous le faisons, sont essentielles à un certain degré, dans un certain contexte, dans des conditions particulières, mais on ne reste pas assis 24 heures sur 24, on ne reste pas forcément toujours dans cette posture d'esprit, sinon dans la posture physique 24 heures sur 24, et le reste du temps, il y a néanmoins des choses à faire. L'expression, le terme qui est employé le plus souvent dans les textes bouddhiques pour désigner le disciple du Bouddha, c'est un terme qui veut dire celui qui s'entraîne. Et il y a divers entraînements. Et c'est d'abord de cela dont je voudrais vous parler, c'est de la diversité de ces entraînements et en expliquant qu'est-ce qui va les distinguer formellement. Lorsque vous venez ici pour pratiquer la méditation, lorsqu'on est dans une retraite de méditation, on est dans un contexte bien particulier qui essaye de se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle la vie monastique. C'est un temps qui est entre parenthèses, hein, qui est hors du temps commun, du temps courant. On n'est pas dans les activités habituelles. On ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas penser comme d'habitude, on ne se positionne pas même physiquement comme on fait d'habitude. C'est un moment privilégié. Mais est-ce qu'on est bouddhiste uniquement pendant ces moments-là? Est-ce qu'on met en application l'enseignement du Bouddha uniquement pendant ces moments-là? Bien sûr que non. Le but du bouddhisme, le but de l'enseignement du Bouddha, c'est d'essayer de mettre fin à dukkha, l'insatisfaction. Le Bouddha ne cesse de le dire, je n'enseigne qu'une seule chose, c'est dukkha, comment ça apparaît, comment ça disparaît, et qu'est-ce qu'il faut faire, comment suivre le chemin qui mène à la fin de dukkha. Il donne comme explication de l'origine de dukkha le fait que l'on ne cesse de reproduire un certain nombre d'activités, ce qu'on appelle le karma, d'activités qui nous sont néfastes et qui sont justement à l'origine de dukkha. Toute la pratique bouddhique vise à nous faire connaître cette activité qu'on appelle le karma, la réalité qu'elle masque, et par ce double apprentissage de reconnaître le karma et de connaître la réalité, de cesser de produire du karma pour rester dans la seule réalité. connaître le karma et connaître la réalité. C'est un petit peu ça les deux axes de la pratique. Si vous cherchez à connaître la réalité sans connaître le karma, alors que le problème du karma, c'est qu'il nous cache la réalité, vous ne serez pas forcément en mesure de voir la réalité, vous risquez de voir le karma qui masque la réalité, si vous ne connaissez pas le karma. C'est comme si on vous présentait un objet et cet objet est voilé. Si on ne vous a pas appris à reconnaître le voile, vous n'allez pas savoir qu'il y a un voile sur la réalité. Donc si vous voulez connaître la réalité, il faut d'abord connaître le voile pour le retirer. Ou pour savoir qu'il est là, pour savoir distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui ne relève pas de la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? La méditation, dans l'assise, on est là pour essayer d'interrompre le karma pour avoir accès à la réalité. Mais si vous ne connaissez pas bien le karma, là encore, comment est-ce que vous saurez que vous l'interrompez? Or, qu'est-ce que c'est que le karma? C'est toutes nos activités ordinaires. C'est notre façon d'être habituelle. Ce qu'on appelle dans termes techniques les tendances. Les samskaras, pour ceux qui connaissent le sanskrit, ou les sankaras pour le pali. C'est-à-dire toute notre façon habituelle de fonctionner, qui est tout ce que nous fabriquons justement pour ne pas voir la réalité, parce que la réalité n'est pas agréable habituellement par rapport à ce que nous souhaitons pour nous. Dans ces moments particuliers où nous sommes isolés de notre vie quotidienne, nous n'agissons pas de façon ordinaire. Nous suspendons des tas d'activités qui produisent du karma habituellement, et là, d'une certaine manière, nous réduisons les possibilités de réagir de façon ordinaire, donc nous réduisons les possibilités pour le karma de se manifester. Ça n'empêche pas qu'il continue de se manifester, hein, très souvent. Mais on n'est pas dans une situation tout à fait ordinaire. La vie quotidienne, elle, c'est la situation ordinaire, c'est là où on produit le plus de karma, et c'est là, finalement, où on peut aussi travailler pour apprendre à reconnaître ce karma. Il n'y a pas que pendant la méditation, il y a aussi dans la vie quotidienne. Et si vous poursuivez votre observation des choses qui se produisent dans la vie quotidienne, avec pas forcément la même intensité, parce que ça serait difficile, mais en tout cas avec la même persévérance que pendant ces moments privilégiés, vous continuez la pratique dans la vie quotidienne. Et de même qu'on vous donne des outils pendant l'assise pour vous aider à être attentif, vigilant, observateur, ne pas vous laisser distraire, il y a des outils qui sont offerts pendant la vie quotidienne pour vous permettre de vous observer vous-même, d'être attentif à ce que vous faites, à la façon dont vous réagissez, à la façon dont vous vous comportez, pour voir comment vous construisez l'image que vous faites de vous-même, l'atman, l'ego, hein. Et donc, toutes ces actions qu'on appelle les karmas, qui contribuent à favoriser l'image que vous avez de vous, à construire cette image que vous avez de vous. Vous pouvez, allez-y. vous voyez bien, quand je dis ça, c'est que si vous voulez vraiment mettre en pratique les enseignements du Bouddha, il faut s'entraîner, mais pas de temps en temps. Il faut s'entraîner de façon continue. Parce que le problème qui se pose à nous, c'est que le karma, si on le laisse faire, allez, mettons que vous méditez une heure par jour, si vous le laissez faire 23 heures sur 24, dans combien de kalpas vous arriverez à vous en sortir? En admettant que vous méditiez une heure le matin et une heure le soir, ça fera jamais que 2 heures sur 24. Bon allez, on supprime 4 heures pour faire dodo, on reste sur 20 heures, ça fait 18 heures de karma pour 2 heures de méditation. Croyez vraiment que vous allez vous en sortir rapidement? Pas vraiment, hein, c'est pas possible. Donc ce qu'on appelle la sila, la discipline, l'éthique, la morale. Il y a beaucoup de traductions, toujours imparfaites en français, de ce terme-là. C'est essayer justement de poursuivre dans la vie quotidienne cette observation de soi, cette attention aux tendances qui sont développées de façon immémoriale, hein, sur des vies et des vies et des vies, et qui se produisent sans qu'on en prenne forcément conscience. Hein. C'est de l'ordre un peu du réflexe. Les samkara, c'est quelque chose dont on a tellement l'habitude qu'on n'y est plus attentif. C'est ce qui se manifeste quasi naturellement, à tel point qu'on, justement, on considère que c'est notre nature. C'est ce que nous sommes. C'est notre personnalité. Ce dont nous ne nous rendons pas compte, ce sur quoi le Bouddha essaye de nous attirer notre attention, c'est que, justement, ça n'est pas notre vraie nature, ça n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que nous reproduisons. C'est quelque chose que nous fabriquons à chaque instant, et que, ne serait-ce que parce que nous les autorisons à se reproduire. Hein, si on dit que c'est pas forcément si c'est un peu de l'ordre de l'inconscient, que c'est quelque chose qui se produit presque à notre insu. Mais finalement, ça se produit à notre insu parce que nous sommes contents que ça se produise. Hein, parce que nous ne sommes pas en train de l'empêcher de se produire. Parce que ça nous satisfait d'une certaine manière. Du moins, on croit que c'est quelque chose qui va nous satisfaire. Dans cette vie quotidienne qui est très agitée, bien évidemment, vous ne pouvez pas développer la même vigilance que celle que vous pouvez développer dans l'assise, dans le silence, dans une posture qui est stable, avec cet objet de la respiration à observer, etc. Donc il faut trouver un autre moyen de s'observer soi-même. Et c'est ça les préceptes. C'est le rôle des préceptes. Le rôle des préceptes, c'est ne pas d'être un commandement auquel il faudrait obéir pour se conformer à un idéal de vie qui nous viendrait de l'extérieur. C'est pas simplement pour ne pas être néfaste, ne pas être méchant avec ceux qui nous entourent, mais c'est aussi et peut-être surtout dans une démarche bouddhique, un outil d'observation, d'attention vis-à-vis de ce jeu de construction de soi qui se produit à chaque instant. Alors je sais que la façon dont on les présente habituellement, ces préceptes, ne donne pas du tout l'impression qu'il s'agit d'un entraînement de l'esprit. On n'a pas du tout l'impression, donc si on accepte le terme de méditation, ce que je accepte avec beaucoup de réticence, c'est une sorte de méditation en action. Du moins, ça devrait être compris comme tel. Mais ça ne l'est pas compris comme ça, parce qu'on a pris l'habitude en Occident de le présenter sous la formulation des 10 commandements. Hein? Donc nous plaquons sur cet enseignement bouddhique tous les a priori, les préjugés et les réactions négatives que nous avons pu développer par ailleurs sur les 10 commandements des monothéismes. Alors, toujours, la meilleure chose à faire, c'est de retourner au texte, de voir comment c'est présenté dans les textes, quelle est la formulation employée dans les textes, et essayer d'oublier ces traductions, cette façon de présenter qui existe depuis 2 siècles en Occident, qui est complètement christianisée, et qui nous fait manquer finalement la réalité de cet enseignement bouddhique. Alors, j'insiste tout particulièrement parce que dans le Theravada, on insiste particulièrement sur les préceptes. C'est peut-être une des particularités du Theravada, d'un point de vue historique même. Et dans la tradition des moines de forêt, dans la lignée d'Ajahn Chah notamment, parce qu'il y a plusieurs traditions de moines de forêt, mais dans la tradition d'Ajahn Chah, il est impensable pour Ajahn Chah et ses disciples directs de séparer l'entraînement dans l'assise de l'entraînement dans la vie quotidienne. Et ce qui permet aux bhikkhus de pouvoir continuer cet entraînement dans la vie quotidienne, quelles que soient les activités que l'on pratique, c'est le respect des préceptes du Vinaya. Lorsqu'on devient un bhikkhu, il y a une cérémonie qu'en français on appelle l'ordination, dont l'expression veut dire prendre les préceptes au complet. C'est comme ça qu'on devient un bhikkhu. On prend les préceptes au complet. Et quand on est maître de maison, on prend des préceptes incomplets. Hein? Mais des préceptes qui sont quand même déjà, qui ratissent large. Il y a de quoi faire avec. Alors, en gros, quelle est la plus grande différence entre les préceptes des maîtres de maison et ceux des bhikkhus? C'est que les bhikkhus ont une vie qui essaye de rassembler les conditions, vraiment toutes les conditions les plus favorables pour pouvoir pratiquer cette vigilance, cette attention, cette compréhension à chaque instant. Et donc, pour cela, on leur demande de vivre d'une façon la plus restreinte possible en activité, notamment sociale. Donc, ils ne doivent pas se nourrir par eux-mêmes, ils ne doivent pas travailler, ils ne s'occupent pas de se procurer ni la nourriture, ni le vêtement, ni le logement, ni même les médicaments. Et de cette façon, ils peuvent se consacrer pleinement à cet entraînement à la vigilance, et le Vinaya essaye, dans toutes les situations qui peuvent se présenter, d'offrir une réponse déjà prête à la situation dans laquelle ils se trouvent, pour qu'ils n'aient pas à se préoccuper de trouver eux-mêmes une réponse. C'est pour ça que finalement, 95% du Vinaya, c'est un moyen de savoir comment se comporter, notamment dans les relations entre bhikkhus et dans les relations des bhikkhus avec les maîtres de maison. Donc c'est de l'ordre de la convention, c'est de l'ordre de la relation sociale. Hein. Comment est-ce qu'on reçoit un objet, comment est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on peut faire dans une assemblée ou pas, dans quelles circonstances on enseigne, dans quelles circonstances, quel moyen de transport on a le droit d'utiliser, et de quelle manière, etc. Ce qui fait que le bhikkhu, d'une certaine manière, comme il doit être pleinement dans la vigilance, il doit être le moins possible dans les préoccupations. Et le Vinaya est là pour lui éviter toute préoccupation. Et donc il est très détaillé, à chaque fois qu'il y a une situation un peu particulière qui s'est présentée, le Bouddha dit, bon voilà, à partir de maintenant, agissez de cette manière-là. Et comme ça vous éviterez de la préoccupation et vous pourrez vous consacrer aux entraînements. Donc il faut comprendre les préceptes bouddhiques pour les maîtres de maison dans cette double dimension. D'une part, de faciliter l'observation de soi, l'entraînement à cette vigilance sur ce que nous faisons d'habitude, naturellement, sans nous rendre compte. Et là, il faut voir comment ça se produit, qu'est-ce qui se produit. Et puis aussi, d'une certaine manière, se faciliter la vie. Donc ce ne sont pas des interdits, ce sont des conseils. Les préceptes, ce sont des conseils pour simplifier la vie et permettre de développer la vigilance. Une des expressions, enfin un des termes qui est employé dans la formule est très riche d'enseignements aussi. La formule qui se trouve répétée quand on prend les préceptes est formée de trois mots. Veramani, Sikapadam, Samadhiyami. Samadhiyami, ça veut dire je me voue complètement. Souvent on traduit ça par je m'engage. Mais il faut le prendre dans un sens extrêmement fort. C'est-à-dire je prends l'engagement de le faire et d'en être conscient et d'y être attentif. Donc un précepte, ça ne se prend pas parce que c'est la tradition. Ça se prend parce qu'on a décidé de. Donc, et l'on s'engage vis-à-vis de soi-même. Et vis-à-vis de soi-même, parce qu'on va comprendre par la suite, avec les deux autres expressions, que ça n'engage pas les autres, ça n'engage que moi. Donc je m'engage, je me voue complètement, et le deuxième terme c'est Sikha Padam. Sikha, ça veut dire l'entraînement. Padam, c'est le pied, donc c'est l'entraînement fondamental, l'entraînement de base. L'entraînement indispensable, l'entraînement radical, dans le sens de qui est à la racine de. Donc je m'engage à m'entraîner. C'est pas j'accepte de pratiquer ou j'obéis en faisant. Non, je m'engage à m'entraîner. Et cet entraînement, il vise ma progression sur le chemin. Mon avancée vers l'éveil, vers la libération de dukkha. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je fais pour les autres. C'est quelque chose que je fais pour moi, dans mon intérêt. Dans l'intérêt de mon propre éveil et de ma propre libération. Donc je me voue complètement à cet entraînement de base, cet entraînement fondamental, Viramani, qu'on traduit généralement par, qui consiste en s'abstenir de. Viramani, très précisément, ça veut dire ne pas prendre plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de prendre du plaisir, ça veut dire que l'on va ne pas céder à la pente naturelle, à ce qui nous fait habituellement plaisir, à ce que l'on considère habituellement comme un plaisir. Et qu'est-ce que c'est qu'un plaisir? C'est quelque chose qui me renforce dans l'idée que j'ai de moi-même. Si ça me fait plaisir, c'est bon pour moi, c'est satisfaisant pour moi, et voilà, c'est l'expression que vous connaissez peut-être, qu'on trouve souvent dans les textes, tout ce qui est mauvais pour le bouddhisme, c'est quand on peut dire « ceci est moi, ceci est à moi, ceci est mon soi ». Voilà. Donc, ce qui nous fait plaisir, renoncer à ce plaisir, c'est renoncer à sa pente naturelle, à ses penchants naturels, à ses habitudes qui nous paraissent être nous-mêmes. Et le problème, c'est justement, c'est nous-mêmes. Si l'on s'engage sur la voie du Bouddha, c'est parce qu'on est censé avoir compris que cette idée qu'on a de soi-même est ce qui génère l'insatisfaction. Hein? Et donc, le Bouddha enseigne une doctrine à contre-courant et une pratique à contre-pied. À contre-courant de quoi? De nos idées ordinaires. À contre-pied de quoi? De notre façon de vivre ordinaire. Parce que nos idées ordinaires et notre façon de vivre ordinaire, c'est ce qui provoque dukkha. C'est ce qui provoque l'insatisfaction. Si on se tourne vers le Bouddha, c'est pas pour continuer sur la même voie. Ça servirait à quoi? Ça serait absurde. Le Bouddha, il vous demande, si vous le suivez, d'opérer une conversion, changement de direction. Vous avez l'habitude d'aller sur une certaine pente, mais il faut aller dans l'autre sens. Vous avez l'habitude de vous laisser aller dans le courant du samsara, il vous demande de changer de courant, de prendre le courant à contresens pour aller en direction du nirvana. Si vous n'êtes pas prêt à ça, ça ne sert à rien de vous asseoir. C'est ça le but. Si vous êtes là juste pour satisfaire vos envies habituelles, une envie de bien-être selon la définition habituelle que vous donnez du bien-être, vous n'êtes pas bouddhiste. Parce que la définition habituelle du bien-être, c'est une définition égotique. C'est une définition qui flatte votre ego. C'est un bien-être qui vous entraîne dans le samsara. Le bien-être selon le Bouddha, c'est pas le bien-être selon le monde. Il y a des textes très clairs, je pourrais vous en citer un, où il y a à peu près tout ce que les gens pensent être le bien, c'est ce que les nobles pensent être le mal. Tout ce que les gens pensent être le mal, c'est ce que les nobles pensent être le bien. Donc quand on parle de doctrine à contre-courant et de pratique à contre-pied, c'est au sens strict. Donc les préceptes, quand vous vous dites « je m'engage à m'entraîner en ne prenant plus plaisir à », c'est-à-dire en ne faisant plus comme si ça m'était naturel, un certain nombre de choses que je considérais comme normales. Je m'observe. Et plutôt que de faire comme d'habitude, je m'arrête. Je m'arrête. Qu'est-ce que vous faites dans la pratique de la méditation? Je disais tout à l'heure, vous observez la respiration et dès qu'il y a naturellement un mouvement vers ailleurs, hop, vous vous abstenez de prendre plaisir à aller vers ailleurs pour revenir à l'observation de la respiration. C'est ça, s'abstenir de. Naturellement, hop, vous serez en train de penser à autre chose. Naturellement, vous serez arrivé à réagir à un bruit, à un son, une démangeaison, n'importe quoi, tout ce qui peut se produire pendant la pratique. Et donc, vous vous abstenez. Vous vous abstenez de réagir comme d'habitude. C'est exactement ça que vous proposent les préceptes. Mais au lieu de le faire dans cette posture assise, dans un moment particulier qui est celui d'un entraînement intense, ils vous proposent de le faire dans la vie quotidienne. Et autre chose aussi qui est importante pour distinguer la pratique assise de la pratique des préceptes, c'est que cette pratique de précepte, elle se fait dans votre relation aux autres. Alors dans la méditation, généralement, vous êtes dans votre relation à vous-même. Les préceptes, c'est dans la relation aux autres. Donc comment mon état d'esprit, celui qui me fait souffrir, celui qui m'entraîne dans l'insatisfaction, comment il se manifeste dans ma relation aux autres? Et comment je peux observer justement ces tendances naturelles qui vont me vouer, si j'y fais pas attention, naturellement, elles me voueront à l'insatisfaction. Donc comment être attentif à ça? Grâce aux préceptes. Donc les préceptes, il y en a quatre essentiellement, plus un cinquième qui a été rajouté ultérieurement. Les quatre préceptes essayent de vous donner quatre types de relations particulièrement fréquentes, qui sonneront pour vous comme une sonnette d'alarme, pour vous observer dans vos tendances naturelles, celles qui sont dommageables. Donc traditionnellement en Occident, on dit ne pas tuer, ne pas voler, ne pas pratiquer l'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir et ne pas pratiquer l'adultère. Ça, c'est la présentation la plus fréquente. Donc, je ne reviens pas sur la formulation « ne pas » qui fait penser au commandement, etc. Donc, je m'engage complètement à l'entraînement fondamental qui consiste à ne plus me laisser aller naturellement à, hein, vous pouvez voir ça comme ça, à ne plus trouver comme naturel à ma personnalité de, alors c'est pas tuer, hein, c'est panatipata, c'est faire violence. Faire violence. Être violent vis-à-vis d'un autre. Ça fait très plus précisément allusion au souffle vital. En l'occurrence, panatipata, c'est tout ce que vous faites lorsque vous vous imposez à autrui. Lorsque vous considérez que vous êtes plus qu'autrui, que vous avez plus de valeur qu'autrui, que autrui peut être écrasé de quelque manière que ce soit pour vous laisser plus de place à vous. C'est pas tuer, c'est s'imposer, c'est forcer autrui, c'est contraindre autrui, c'est gêner autrui. Donc vous imaginez la palette d'activités dans laquelle vous pouvez reconnaître ce type de réaction naturelle. Naturelle dans ce qui m'amène à dukkha. Le but, encore une fois, c'est d'arriver à faire en sorte de ne plus provoquer ce genre d'attitude, de ne plus répéter ce genre d'attitude qui vont systématiquement nous amener à expérimenter dukkha. Donc ça n'est pas simplement tuer, c'est moi-je. C'est dès que vous dites moi-je, et les autres, vous vous taisez. En gros, c'est ça, panatipata. Adinadana. Adinadana. Ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. Ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. Là encore, ça va bien au-delà du vol. Alors pour un bhikkhu, ça va très très loin. Parce que lui ne se nourrit que de ce qu'on lui donne. Il n'a rien le droit de prendre au sens strict. Vous avez des récits traditionnels, des bhikkhus théravadines, assez lents dans les temps anciens. Il y a eu plusieurs fois des grandes guerres et des périodes de famine extrêmement graves. Et je pense à un texte, par exemple, qui raconte l'histoire d'un bhikkhu qui ne veut pas rompre ses vœux. Il a dit qu'il prenait les préceptes au complet. Il est assis dans un verger. Il n'y a personne pour lui donner un fruit. Et il est en train de mourir de faim. parce qu'il ne veut pas prendre ce qui n'a pas été donné. Donc vous voyez que ça peut aller très loin. Alors dans notre vie quotidienne, à nous, ne pas prendre ce qui n'a pas été donné, ça ne nous interdit pas d'acheter, puisqu'on nous a donné de l'argent qui nous permet d'acheter. Bon, un bhikkhu, lui, il n'a pas le droit d'avoir d'argent. Donc bien sûr qu'on a le droit d'acheter. Mais on n'a pas le droit de... on ne s'autorise pas à prendre ce qui n'a pas été donné. Parce que encore une fois, lorsqu'on prend ce qui n'a pas été donné, c'est qu'on considère que cela est à moi. Et cela, c'est quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Y a des exemples dans les textes bouddhiques, je pense, traditionnels de Ceylan, où l'on reproche à un bouddhiste de cueillir une fleur. C'est pas parce que la fleur est là qu'elle est à lui. La fleur sert aux abeilles à butiner, à de nombreux insectes à butiner. Elle n'est pas à moi. Pourquoi est-ce que j'en dispose? Alors peut-être que vous n'irez pas jusqu'au fait de ne pas cueillir la fleur. Mais si vous avez pris l'engagement de vous entraîner à ne pas céder au penchant naturel de prendre ce qui n'a pas été donné, au moins vous pouvez vous arrêter et vous demander pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que ça signifie de votre personnalité? Qu'est-ce que ça signifie de votre tendance? Et si vous êtes prêt à prendre cette fleur, qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre d'autre? Qui vole un œuf, vole un bœuf.
Est-ce que la différence justement avec un commandement, c'est justement, parce que moi ça m'est déjà arrivé, d'observer son esprit, dire, tout de suite c'est la sensation, je vois, tiens c'est une jolie fleur, et tout de suite on a envie d'aller oui. Courir vers elle, mais en fait on se rend compte, on dit mais...
Pourquoi?
Et la réflexion, si on se prend un peu de recul, c'est qu'est-ce qui t'a autorisé à la prendre, quoi, en fait.
C'est exactement ça. À peu près. Adinanana, c'est ça. C'est exactement ça. Alors il y a des textes qui ont illustré cet aspect de la jolie fleur, etc. Mais bon, je cite aussi d'autres exemples. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous téléphonez pour un coup de téléphone privé sur le téléphone de l'entreprise, vous faites des photocopies gratuitement. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé à Vivekarama de... « Ah, vous avez besoin de photocopies? Je vais les faire à mon bureau. » Non. On va payer une photocopie. L'association a de l'argent, on va payer une photocopie. Mais il n'est pas question que vous fassiez ça à votre bureau. Votre employeur, il n'est pas bouddhiste particulièrement. Alors, s'il vous le donne, s'il vous le propose, soit. Mais s'il ne vous le propose pas, non.
Ça, moi, c'est vraiment un détail qui me perturbe. Parce que c'est vraiment la vie de tous les jours.
Oui.
Et voilà, par exemple, moi, à mon travail, le portable ne passe pas.
Ouais.
Donc les fois où j'ai un besoin personnel de téléphoner, je suis, en tout cas, je m'autorise et c'est vrai que j'ai déjà pensé à me demander, bon, mais...
Alors, est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il y en a une autre?
Sortir.
Oui, mais bon, la photocopie, c'est pareil. Bon,
j'ai fait la même chose parce que je ne pouvais vraiment pas faire autrement.
Et c'est vrai que ça, c'est entre les photocopies et le téléphone.
C'est pour ça que je cite ça.
Effectivement, moi, c'est à chaque fois. Parce que ça, je ne peux pas me l'éviter. Je n'ai pas encore réussi à m'éviter.
Mais c'est déjà bien si ça attire votre attention sur.
Ouais.
Ça attire votre attention sur. Voilà. C'est déjà ça. Ça, c'est. Encore une fois, c'est un entraînement. Si c'est un entraînement qu'on s'engage à, s'entraîner, ça veut dire qu'on sait que ça n'est pas naturel. Bon, on sait que ça va être difficile. On sait que ça va demander un effort. Et que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Le principal, c'est de ne pas se leurrer. C'est de ne pas se leurrer. Moi, le premier, il y en a un que je respecte pas beaucoup. Je le reconnais, ou alors on ne le prend pas. On ne prend pas ce précepte-là, parce que rien ne vous oblige à prendre les cinq. Puisque c'est un entraînement, il ne faut pas les prendre à la légère, il ne s'agit pas de les prendre pour les prendre, il s'agit de les prendre pour les respecter. C'est comme vous venez ici, vous ne venez pas ici pour vous asseoir sur un coussin et dormir. Alors peut-être que vous allez dormir, parce que vous avez trop mangé, parce que vous êtes trop fatigué, parce qu'il fait trop chaud, etc. On a beau lire dans les textes qu'il ne faut jamais méditer après le repas. Il faut toujours faire la sieste après le repas et on médite après, une fois que les troubles du sommeil ont disparu. Parce qu'il faut toujours pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, vous avez envie, vous ressentez la nécessité de pratiquer, peut-être que les conditions ne sont pas bonnes et que vous n'y arriverez pas. Alors, les textes ont prévu ça. Dans quel cas un précepte est brisé, n'est pas respecté? Il faut déjà être conscient qu'on a pris un précepte, conscient que toutes les circonstances pour le briser sont faites, sont là, conscient de le briser et s'en réjouir. Alors, s'en réjouir, c'est l'expression qui est dans le texte lui-même. En fait, ça veut dire l'assumer, hein, la faire sienne. Parce qu'une action n'est vraiment karmique que si vous reconnaissez que c'est vous qui l'avez faite, que c'est volontaire, que c'est intentionnel. Dans ce cas-là, c'est un karma puissant. Mais si c'est une action que immédiatement vous regrettez, ou vous dites, bon, voyez, c'est mes samskaras, tant pis, cette fois-ci, je les laisse faire. Ça sera un peu moins grave. Il y aura au moins une prise d'attention, ça vous rendra plus attentif. C'est un entraînement. C'est pas un commandement. C'est un entraînement. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Bon, il y a toujours une histoire à laquelle je cite, que j'aime beaucoup, qui fait partie de la tradition singhalaise du Theravada, d'un voleur qui rentre dans un monastère, il voit des bols à aumône qu'il prend pour des bols en argent, il s'apprête à les voler, et il y a l'abbé du monastère qui le surprend. Et donc l'abbé lui dit, bon écoute mon garçon, tu peux pas continuer comme ça, c'est très mauvais pour toi, prends les préceptes au moins, hein, deviens un pratiquant bouddhiste, au moins des préceptes. Et donc le voleur, il n'était pas très au courant, il lui demande qu'est-ce que c'est que les préceptes, donc l'abbé lui donne les 5, il lui dit, mais ça va pas, moi je peux pas faire ça. Déjà, je peux pas dire que je vais arrêter de voler, puisque c'est mon métier. Hein, donc de celui-là, je peux pas le prendre. Ne pas tuer, c'est gênant, parce que dans des situations, parfois, je suis bien obligé de... Si je veux pouvoir voler, je suis bien obligé de tuer. Donc je peux pas dire que je volerai pas, je peux pas dire que je tuerai pas. Mentir, je peux pas dire non plus, parce que ça permet de détourner l'attention et de chaparder dans les poches. À la rigueur, le seul que je peux prendre, c'est pas pratiquer l'adultère. Le moine dit, c'est parfait, prends celui-là, mais respecte-le. Hein? Puisque tu l'as pris, tu le respectes. Et la nuit même, notre voleur va voler. Il rentre dans une maison par effraction, mais il y a un couple qui est en train de dormir, la femme se réveille, et elle entend le voleur. Et cette femme est très malheureuse en ménage, et elle n'a qu'une envie, c'est de se faire sauter par le voleur. Et elle le drague, mais de façon absolument éhontée, mais comme il a pris le précepte, il n'ose pas. Et comme il ne sait pas quoi faire, il fiche le camp. Et il se rend compte qu'en ayant respecté le précepte de ne pas faire l'adultère, ben du coup il n'a pas volé. Et qu'il s'est sorti d'un mauvais pas. Et donc il retourne voir l'abbé et il décide de prendre les 5. J'adore cette petite histoire. Donc souvenez-vous-en, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les préceptes, vous pouvez en prendre qu'un, mais dans ce cas-là, vous vous êtes engagé à le respecter. Et encore une fois, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Hein. Mais si vous respectez celui-là, vous verrez que ça vous aidera à respecter les autres.
Pour revenir à l'histoire du moine, du bhikkhu, qui ne veut pas prendre le fruit parce que ce n'est pas donné,
oui.
Est-ce qu'il ne... N'essaie pas de respecter à la lettre, donc c'est l'esprit qui compte.
Alors ça a été un très 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 grand débat dans l'histoire du Theravada, surtout quand il était dans son développement assez lent. C'est pour ça que je voulais vraiment en parler, parce que le Theravada singhalais, le Theravada au début c'est juste un des 3 courants du bouddhisme singhalais, qui après prend de l'importance et se développe et va se répandre partout. Mais ce courant qu'on appelle Theravada était vraiment très strict à ce niveau-là. Alors, on leur a reproché, effectivement, de pousser ça jusqu'à une forme d'ascèse qui était extrême. Mais, en même temps, vous voyez dans le canon des textes où le Bouddha approuve ce genre d'attitude. Il y a un texte, je pense à un texte où un jeune bhikkhu, qui n'est pas dans la communauté depuis très longtemps, décide de partir en mission dans une région qui est réputée extrêmement dangereuse. Et les autres bhikkhus disent « t'es un peu fou quand même, ça fait pas longtemps que t'es là, tu devrais être un peu plus sûr de toi, enfin un peu plus ancien avant de partir là, surtout que c'est une région où les gens sont vraiment réputés comme étant extrêmement violents, ils risquent de te taper dessus, de te tuer, enfin bon, c'est pas le moment. » Donc ils le poussent à aller voir le Bouddha pour que ce soit le Bouddha qui juge de la situation. Et le Bouddha lui dit, bon, bah écoute, si tu vas là-bas, comment réagiras-tu si on t'injurie? Et le bhikkhu répond, bah je serai très content parce qu'au moins on m'aura pas tapé dessus. Et bah, si on te tape dessus, bah je serai très content parce qu'au moins on m'aura pas coupé un membre. Bon, bah si on te coupe un membre, bah au moins je serai content parce qu'on m'aura pas tué. Et si on te tue, eh bah je serai content parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent à se suicider et moi on me l'aura offert. Et le Bouddha répond, c'est parfait, t'es dans un bon état d'esprit, tu peux y aller. Donc vous voyez, on peut, il y a une dimension ascétique dans le bouddhisme qui est connue. Le Theravada est certainement l'école qui est la plus ascétique, parce que les autres relevant du Mahayana prennent un peu des arrangements avec la 16 dans un certain état d'esprit, en tout cas dans certains enseignements. Donc il y a une dimension ascétique dans le bouddhisme Theravada qui est très présente. Et après, on peut effectivement trouver que c'est trop respecter la lettre et pas assez l'esprit, mais dans de très nombreux textes, le Bouddha dit, même à ses disciples parvenus à l'éveil, voyez un danger dans le moindre manquement aux règles. Voyez un danger dans le moindre manquement aux règles. Bon, ça, il faudrait... Comment dire ? Le bhikkhu partait du principe que s'il dérogeait à la règle, c'est qu'il tenait moins à la règle qu'à sa vie, et donc il était dans une démarche qui était purement égotique. Et qu'il faisait confiance au Bouddha. Le Bouddha a un enseignement qui vient de sa sagesse, et s'il a dit ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc si vraiment on veut se détacher de cette idée qu'on a de soi-même qui nous entraîne vers l'insatisfaction, pourquoi tenir à la vie ? Il ne s'agit pas de se suicider, mais on n'a qu'une raison de tenir à sa vie. Donc si on n'a personne pour vous donner de la nourriture, on peut mourir de faim. C'est dans la logique de l'enseignement bouddhique. Alors je sais que c'est pas très... hein, ça donne pas envie, comme ça, mais c'est dans la logique de l'enseignement bouddhique. Et il y a de nombreux exemples dans les textes qui vont dans ce sens-là. C'est ce que prouvent aussi les Jataka, quand le bodhisattva se jette du haut d'une falaise pour s'offrir en pâture à une tigresse. Qui est trop faible pour nourrir ses petits et qui allait s'apprêter à manger ses petits, plutôt pour lui donner de la nourriture, il s'offre lui-même en se suicidant d'une certaine manière. Sauf que ce n'est pas un suicide parce qu'il ne cherche pas à échapper à sa vie, il s'offre à la tigresse. Et il y a un autre où il est lièvre, il va s'offrir en repas à un brahman, qui a donc un feu devant lui, comme tout bon brahman qui se respecte, hein, si j'ose dire, et le lièvre va se jeter dans le feu pour s'offrir en nourriture parce qu'il n'a rien d'autre à offrir, puis il se dit, moi je bouffe de l'herbe et des carottes, je vais quand même pas offrir ça à un brahman, mais avant de se jeter dans le feu, il se secoue énergiquement pour qu'au moment où il va tomber dans le feu, il n'y ait plus sur lui aucune tique, aucune puce. Lui il s'offre, mais il ne tue personne. Donc ça, vous avez de très nombreux exemples.
Non, j'ai trouvé la réponse. Là.
Bon, d'accord. donc ça, c'était pour... j'évoquais la adinadana, ne pas prendre ce qui n'a pas été donné, ne pas faire violence, ne pas violenter. Il en reste 2 plus 1. Ne pas se laisser aller aux paroles... Alors, musavada, aux paroles inadéquates. Aux paroles inconvenantes. Inconvenantes veut dire qu'ils ne sont pas convenables, encore une fois, dans l'optique bouddhique, dans l'optique de favoriser pour soi comme pour autrui une progression vers l'éveil qui permette d'échapper à l'insatisfaction. Donc c'est toujours ça, on est dans cet objectif-là. C'est pas ne pas prononcer des paroles qui, socialement, peuvent avoir des conséquences malheureuses. On peut dire des choses qui peuvent être socialement incorrectes si elles sont bouddhiquement correctes. Ça peut me permettre de s'interroger. Hein ? On peut peut-être dire des choses qui sont bouddhiquement correctes, qui pourtant sont socialement, politiquement incorrectes. Mais bon, il faut être prudent. Dans le doute, abstiens-toi. Donc, généralement, Musavada s'est présenté en quatre types de paroles. Alors, il y a l'aspect négatif et il y a l'aspect positif. Donc, c'est ce qu'on appelle le noble silence. Hein? Qu'est-ce que c'est pratiquer le noble silence? Ça ne veut pas dire se taire. Ça veut dire ne pas parler quand c'est mensonger, quand c'est douloureux pour les autres, pour soi-même ou pour autrui, parce qu'il ne faut jamais s'oublier soi-même. C'est des paroles inutiles et des paroles distrayantes, frivoles, qui favorisent l'égarement d'autrui. À l'opposé, il faut parler pour dire des choses qui sont de l'ordre de la vérité bouddhique, qui favorisent l'harmonie, qui ne sont pas blessantes, mais qui, à le contraire, sont apaisantes, créent l'harmonie, créent le bien-être, qui ne sont pas inutiles, qui peuvent être d'un bon secours, et qui ne détournent pas du chemin, qui ne sont pas frivoles, qui sont nécessaires. Vous avez un enseignement du Bouddha à son fils, Rahula, justement sur ce sujet très précis de la parole. Et ce texte-là, je le donne toujours à nos étudiants à l'Institut d'études bouddhiques, en parallèle avec un autre texte sur les préceptes, pour leur montrer quelle est la différence entre une compréhension sociale, mondaine, des préceptes, et la compréhension des préceptes comme un exercice, comme un entraînement sur la voie bouddhique. Le premier texte, c'est un texte qui est cité dans tous les bouquins sur le bouddhisme, alors que ce n'est pas un enseignement bouddhiste. C'est un enseignement du Bouddha, mais ce n'est pas un enseignement bouddhiste. Et le deuxième qui n'est jamais cité, c'est l'enseignement à Rahula. Donc le premier, c'est extrait d'un sutta qui s'appelle le Veludvareya Sutta, où le Bouddha passe, comme ça lui arrive de temps en temps, dans un village qui suit la religion brahmanique. Parce qu'à l'époque où le Bouddha vivait, il y avait des brahmanes dans des villages, mais le brahmanisme n'était pas la religion dominante de l'époque. Donc il rentre dans un village où il y a des brahmanes, et les habitants du village disent, ben voilà, nous on est des bons pères de famille, on aime bien la vie, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien avoir des enfants, on aime bien faire la fête, on aime bien se pomponner, avoir des beaux vêtements, etc. Est-ce que vous aurez un truc à nous enseigner qui nous permettrait d'améliorer les choses? C'est à peu près ça. Hein. Alors je peux vous donner bien sûr l'expression canonique, c'est une formule toute faite qu'on retrouve très très souvent, ça donnera, nous sommes des gens qui vivons avec des passions, des espoirs, des désirs, donc ils n'ont pas du tout envie d'atteindre le nirvana et de se sortir de dukkha, hein. Nous aimons vivre au milieu de nombreux enfants, user de bijoux, de parfums, d'onguents, manier l'or et l'argent, et nous souhaitons renaître dans des destinées bienheureuses. Autrement dit, aucune envie de sortir du samsara. Enseignez-nous quelque chose qui soit adéquat avec notre manière de vivre. Donc, ça n'est pas un enseignement bouddhique qui va suivre. C'est le Bouddha qui va donner un conseil. Mais pour des gens qui veulent rester dans le samsara, il ne va pas donner un enseignement bouddhique. L'enseignement bouddhique, c'est ce qui sert à sortir du samsara. Donc quelque chose qui sert à vivre dans le samsara, ça ne relève pas de l'enseignement spécifique au Bouddha. Or, c'est ce texte-là que vous trouvez dans tous les bouquins sur le bouddhisme pour présenter les préceptes. S'il n'y a pas plus aberrant, je vois pas. Hein. Alors, que dit le Bouddha? Il présente ce qu'on appelle en Occident la règle d'or de l'éthique. Cette règle d'or de l'éthique, vous la connaissez, c'est ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc, t'as pas envie d'être tué, tout le monde est comme ça, personne n'a envie qu'on le tue, donc ne tue pas autrui puisque toi-même t'aimerais pas qu'on te tue. T'as pas envie d'être volé, ne vole personne, puisque tu es comme les autres. Si tu n'as pas envie qu'on te vole, les autres n'ont pas envie non plus qu'on les vole. Donc respecte-les. C'est ce que j'appelle un égoïsme bien partagé. Ça n'a rien de bouddhiste. Strictement rien. Quelque chose qui se fonde sur l'égoïsme ne peut pas être bouddhiste. Et cet enseignement-là s'adresse à des gens qui veulent vivre dans le samsara. Et qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes. Alors, si on en reste là, on se dit, ben alors, qu'est-ce que c'est les préceptes du point de vue bouddhiste? Alors, l'enseignement à Valpola Raoula. Ah, Valpola Raoula, à Raoula. C'est amusant. Excusez-moi. C'était un lapsus très, très, très révélateur. À son fils, Raoula. Chaque fois que tu voudras accomplir un acte corporel, verbal ou mental, à chaque fois que tu accompliras un acte verbal, corporel et mental, à chaque fois que tu auras accompli un acte corporel, verbal ou mental, tu devras réfléchir ainsi. Cet acte que je veux accomplir, que je suis en train d'accomplir ou que je viens d'accomplir, présente-t-il un danger pour moi, pour autrui, pour moi et pour autrui? Est-ce un acte inadéquat, aux conséquences dommageables, aux résultats néfastes, du point de vue bouddhiste? Si en réfléchissant ainsi, tu conclus que cet acte présente un quelconque danger, qu'il est absolument inapproprié, considère-le comme un acte tout à fait absolument inapproprié pour toi, et tu devras toujours t'en abstenir. En revanche, si en réfléchissant ainsi, tu conclus que cet acte ne présente aucun danger pour toi, ni pour autrui, ni pour toi et autrui, que c'est un acte adéquat aux conséquences heureuses et aux résultats bénéfiques, alors tu devras considérer cet acte comme absolument convenable, et tu pourras continuer à l'accomplir. Ça, c'est un enseignement bouddhiste. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être attentif à ce que va conditionner notre manière d'agir. Est-ce que ça va favoriser dukkha? Est-ce que ça va avoir des conséquences malheureuses pour moi? Est-ce que ça va participer à la reproduction de mes mauvaises habitudes mentales, celles qui vont m'entraîner à me perpétuer le samsara? Est-ce que ça risque d'avoir le même effet sur autrui? Là, on est effectivement dans la lutte contre l'ego. Celui qui cherche sa satisfaction et qui va connaître l'insatisfaction. On n'est pas dans l'égoïsme bien partagé, là. On n'est pas au niveau de la règle d'or de l'éthique. On est dans un entraînement d'observation et de réflexion avant, pendant, après. Mais bon, là, il s'agit d'un bhikkhu, hein, donc il lui a dit jamais. Jamais. Tu dois absolument te l'interdire. Et le texte commence auparavant. Le Bouddha arrive près de Raoula. Raoula prépare une bassine avec de l'eau pour lui laver les pieds, comme on fait habituellement pour rendre hommage à son maître, quand il arrive, surtout qu'il marchait à pied, pieds nus, sur les routes. Donc on commence d'abord par lui laver les pieds. Le Bouddha renverse l'eau de la bassine et puis montre la bassine en disant, tu vois le peu d'eau qui reste dans le fond de la bassine. Et là, oui, effectivement, je vois un tout petit peu d'eau. Eh bien, il dit que c'est aussi peu que ce qu'il reste d'un véritable disciple s'il ne ressent aucune honte à dire un mensonge délibéré. C'est-à-dire que le moindre petit mensonge fait que, voilà, il y a un petit quelque chose qui reste, il n'y a que ça qui reste de la véritable pratique. S'il dit un mensonge. Donc si on, normalement, le disciple, le vrai disciple, ce serait le bol plein d'eau. Donc un seul mensonge fait qu'il ne reste dans ce bol que l'équivalent de quelques gouttes d'eau. Parce que un seul mensonge, vous verrez un grave danger dans le moindre manquement à la règle. Bon, ça c'est pour les bhikkhus. Vous n'êtes pas forcément des bhikkhus. Vous avez le droit de vouloir l'être. Vous pouvez même être un bhikkhu au sens général du terme, en restant dans la vie de tous les jours. Mais vous imaginez la difficulté. Non ? Bien. Donc, Musavada, des paroles inappropriées. Le quatrième, Kamesu Michachara, qu'on traduit généralement par la pratique de l'adultère. Alors, effectivement, c'est ce qui est présenté au village de Brahman, la pratique de l'adultère. Tu as plusieurs femmes, tu n'as pas envie qu'on vienne coucher avec elles, donc ne couche pas avec celles des autres, au pluriel. Celles, au pluriel, des autres. C'est souvent présenté dans les sociétés asiatiques, bouddhistes, effectivement, comme la non-pratique de l'adultère. Mais c'est beaucoup plus large que ça, encore une fois, si on regarde le mot. Donc, kamesu, c'est ce qui relève du plaisir sensuel, ça vient de Kama, comme dans Kama Sutra, hein. Mais c'est pas seulement la sexualité c'est un peu le parangon des plaisirs sensuels, mais c'est tous les plaisirs sensuels, Kama, tout ce qui c'est agréable à travers les sens. Alors, après on peut jouer sur 5 ou 6 sens. Il y a les 5 sens physiques, puis il y a le sens mental. Si on rajoute le plaisir sensuel mental, alors là, ça va très loin. Mais on devrait pouvoir, surtout en Occident, et surtout dans les pays latins, rajouter celui-là aussi. Donc ça, c'est Kamesu, ce qui relève des plaisirs sensuels. Mais c'est précisé par Michachara. Ça veut dire qu'il ne faut pas se priver de tous les plaisirs. Il faut se priver des plaisirs Michachara. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Chara, c'est la conduite, la manière de se comporter. Et Micha, inadéquate dans le sens d'elle excessive, exclusive. Micha, c'est un adjectif assez complexe, mais en gros, c'est quand on fait des choix. Qui du coup vont entraîner une attitude d'exclusivisme de façon à exagérer, etc. Donc, c'est, il y aurait beaucoup à dire, je peux pas dire ça ici, ça nous sortirait quasi trop de notre... Pardon ?
Ça pourrait aller jusqu'à l'addiction ?
Oui, mais pas seulement. c'est parce que l'addiction, c'est quand on ne peut pas s'empêcher de... Tandis que là, c'est plutôt quand on volontairement... Moi j'ai envie de dire, c'est quand on fait des excès, mais surtout quand on se donne des bonnes raisons pour. Vous savez, quand vous savez que c'est pas bien, puis vous trouvez des tas d'arguments pour le faire quand même. Michel-Henri Dufour traduisait ça par les chemins tordus. Hein? Donc voilà, tout ce qui fait que. On ne devrait pas, on sait qu'il ne faudrait pas, etc. Mais on se trouve toutes les bonnes raisons pour le faire. Et on le fait de façon donc excessive ou de façon tordue, de façon hypocrite. Voilà. C'est pas la satisfaction d'un plaisir sensuel comme simplement, ben voilà, tout à l'heure j'avais chaud, je suis allé boire. C'est un plaisir sensuel. C'était agréable. Bon, ça, c'est pas un michachara. Mais reprendre un chocolat alors qu'on en a déjà mangé deux, prendre un verre de whisky plutôt qu'un verre d'eau, manger de la brioche plutôt que du pain, voilà, toutes ces choses-là. Aller voir la femme des autres alors qu'on en a une à la maison, voilà. C'est tout ce principe qui fait qu'on n'est pas dans le contentement avec peu. C'est ce qui va essayer peut-être de nous rapprocher du bhikkhu. Bhikkhu, c'est un terme dont j'aime bien parler de l'étymologie, là encore, parce que la traduction a été catastrophique en Occident. On traduit bhikkhu par moine mendiant. Mendiant, alors qu'il n'a pas le droit de demander. C'est complètement aberrant. Et moine ne veut pas dire la même chose que bhikkhu. Bhikkhu, ça vient d'un verbe qui veut dire avoir en suffisance. Avoir en suffisance. En fait, le bhikkhu... c'est celui qui est content, qui se contente de peu, qui pratique la vertu de contentement, qui se satisfait de ce qu'il reçoit. Non pas parce qu'il a fait vœu de pauvreté, mais parce qu'il domine il maîtrise ses désirs. Et le bhikkhu, normalement, ne vit, à l'époque du Bouddha, que des 4 nécessités. Donc je vous rappelle les 4 nécessités.
Maison.
Ce qui tombe dans le bol comme nourriture, ce qui tombe dans le bol. Bon, en n'ayant jamais le droit de demander quoi que ce soit. Pour tout vêtement, un tissu de rebut doit se vêtir normalement, à l'origine, de bouts de vêtements, de tissus qui ont été jetés. Après, sur les conseils du médecin, le Bouddha a accepté qu'on reçoive aussi des tissus neufs. Mais dans ce cas-là, on les découpe pour qu'ils soient plus neufs. Et on les recoue sous la forme d'un plan de rizière qui aurait été choisi par Ananda, paraît-il, d'après la tradition. Mais donc, surtout des vêtements rejetés, ce que les autres ne veulent plus. De même que la nourriture qui est reçue, qui est tombée dans le bol, d'une certaine manière, c'est un peu ce que les autres ne voulaient plus. Ou ce que les autres ont en trop. Pour tout logement, les branches d'un arbre, sous lesquelles s'asseoir, et pour tout médicament, de l'urine de vache fermentée. Il faut avaler. Hein. Bon, c'est un très bon désinfectant, mais tout de même. Voilà, donc le bhikkhu, c'est celui qui se contente des quatre nécessités. C'est tout. Donc là, kamezu michachara, c'est essayer de vous amener à vous contenter. Hein? Essayer de vous contenter de ce que, des plaisirs naturels. Vous savez, il y a le philosophe Épicure en Occident qui dit il y a des plaisirs naturels et nécessaires, comme boire quand on a soif, se couvrir quand on a froid, dormir quand on a sommeil. Et puis, il y a des désirs naturels, mais non nécessaires, boire du vin, déjeuner avec des amis, avoir une couverture en mohair plutôt qu'en laine grossière, ou quelque chose comme ça, hein, avoir un costume de chez Hugo Boss plutôt que de l'avoir acheté à Monoprix. Et puis, il y a des plaisirs non naturels et non nécessaires, c'est accumuler de l'argent, accumuler du pouvoir, etc., etc. Le bouddhisme vous demande, d'une certaine manière, de vous consacrer simplement au désir naturel et nécessaire et de vous contenter. De vous contenter de peu. Parce que plus vous goûterez des choses délicieuses, etc., plus ça éveillera votre avidité et plus vous resterez dans le samsara. Si votre but ultime réellement c'est de sortir du samsara et de mettre fin à dukkha, si c'est votre but, dans ce cas-là, habituez-vous à vous contenter de peu. Parce que tout le reste, ça ne fait que développer les conditions d'apparition de l'insatisfaction. Bon, j'ai conscience que c'est pas ce que tout le monde souhaite. Vous pouvez être comme les habitants du village de Brahman. Hein. Mais voilà, si vous pratiquez la méditation, qui est la pratique la plus radicale normalement pour éliminer l'illusion de l'ego et les racines de l'insatisfaction, c'est que c'est ça votre but. Sinon, je ne sais pas trop pourquoi vous méditez.
Réduire le stress.
C'est pas à ça que ça sert la méditation bouddhiste.
Je sais.
Sauf si vous pratiquez à la rigueur shamatha. Mais c'est pas vipassana.
Non, mais je sais, c'était une
boutade. Aucune parole inutile et frivole. Hein?
Il y a aussi des gens qui pratiquent la méditation pour développer des pouvoirs psychiques.
Oui, mais ça c'est samatha. Et samatha n'est pas une pratique méditative qui est spécifique au bouddhisme. La pratique méditative spécifique au bouddhisme, c'est ce qu'on appelle vipassana. C'est elle qui permet de développer la vision juste des choses telles qu'elles sont, qui vise à réduire l'ego et la satisfaction. Samatha, c'est une méditation qu'on trouve chez les Jains, qu'on trouve chez les Indiens, chez les Hindous, qu'on trouve même dans l'islam et dans le christianisme. Donc c'est pas du tout spécifique au bouddhisme. Samatha, c'est un petit peu la même chose que l'enseignement du Bouddha au village des Brahmanes. Ça enseigne quelque chose que l'on trouve à peu près dans toutes les courants spirituels. C'est pas parce que le Bouddha le dit que c'est spécifique au bouddhisme. Il y a dans la présentation des enseignements bouddhiques, on parle toujours de l'enseignement graduel des Bouddhas. Et à la première moitié, c'est ce qu'on est censé pouvoir attendre de tout enseignant spirituel. Et après, il y a ce qui est spécifique au Bouddha. Et ce qui est spécifique au Bouddha, ça commence avec l'enseignement des quatre nobles vérités. Enfin, plus exactement, des quatre aspects de la réalité tels que les voient les nobles. Voilà. Tout ce qui est en dessous, la vertu du don, croyance en les existences successives, et le fait qu'elles sont dépendantes, ces existences, de ce que l'on a fait et de la façon dont on agit, le danger qu'il y a à céder au plaisir sensuel et les avantages qu'il y a au renoncement n'est pas de l'enseignement spécifique des Bouddhas. C'est ce qui est censé pouvoir se retrouver dans tous les enseignements spirituels. Et ça, c'est la base qui permet d'avoir l'esprit souple, bien délié, malléable, pour que le Bouddha puisse enseigner ensuite, l'enseignement spécifique au Bouddha. Tant que vous restez attaché au plaisir sensuel, que vous n'avez pas compris l'avantage du renoncement, et que vous ne croyez pas aux existences successives en fonction de la qualité des actes, Bah, d'une certaine manière, le texte, l'enseignement du Bouddha vous dit, vous n'êtes pas apte à entendre l'enseignement spécifique du Bouddha. Si déjà vous n'avez pas ces trois qualités, vous n'êtes pas apte à entendre l'enseignement spécifique du Bouddha. Vous n'êtes pas dans sa direction. Donc voilà, ne pas céder au chemin tordu ou aux excès dans les plaisirs sensuels, c'est essayer de se contenter du minimum. Et puis le cinquième, qu'on ne trouve pas dans les textes les plus anciens, c'est un peu une condition sine qua non de respect des quatre précédents, puisque c'est ne pas, alors textuellement, ne pas boire d'alcool et de boissons fermentées, qui, c'est ça le plus important, provoque la non-maîtrise, empêche la bonne maîtrise de soi. C'est sûr que si vous n'êtes pas maître de vous-même, vous ne pouvez pas pratiquer la vigilance, vous ne pourrez pas pratiquer l'attention, vous ne pouvez pas développer les entraînements que vous propose de mettre en œuvre le bouddhisme. Donc c'est un peu une condition sine qua non. Donc ça, vous le trouverez que dans les textes de la deuxième période, mais pas dans les textes les plus anciens, parce que d'une certaine manière, ça tombe sous le sens. Enfin, alors peut-être qu'à une certaine époque, on a pensé qu'il y avait des drogues ou je ne sais quoi qui permettaient de pratiquer mieux, et que du coup, on a ressenti le besoin d'exprimer ce cinquième précepte, mais dans les textes anciens, il n'y est pas. Il n'existe pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère vous avoir fait comprendre un petit peu mieux ces préceptes. Là, ce que je viens d'évoquer, c'est juste la première partie. Il y en a d'autres que j'évoquerai la prochaine fois. Ça, c'est les préceptes de base. Alors, quand je dis la première partie, il y a le fait qu'on prend 5 préceptes, ou 8, ou 10, quand on est en maître de maison, puis qu'on se rapproche de plus en plus de l'idéal du bhikkhu, mais c'est des 8 ou des 10 que j'évoque quand je dis qu'il y en a d'autres après. C'est d'autres exercices, d'autres entraînements qui sont la garde des portes des sens, notamment, dont je parlerai dans 15 jours. Qu'est-ce que ça veut dire que garder la porte des sens? Alors, tout cela étant considéré comme des préalables à une pratique correcte de la méditation, qu'elle soit de samatha ou de vipassana. Voilà. Si vous n'êtes pas un habitué des préceptes, du contrôle de la porte des sens, etc., vous ne créez pas les conditions favorables à un juste développement de samatha et de vipassana. C'est-à-dire que vous vous condamnez à pratiquer en revenant à chaque fois au point de départ. En gros. C'est un peu ça. Puisque si vous pratiquez les préceptes entre les séances de méditation, c'est ce qui permet de continuer l'entraînement. Donc imaginez un sportif de haut niveau qui s'entraîne une fois par mois. Et qui ne fait rien entre-temps. Qui ne change pas sa façon de manger, qui ne change pas ses horaires de sommeil, etc. etc. Vous regardez tous les sportifs de haut niveau, ceux qui pratiquent les entraînements, au sens le plus fort du terme, ils changent leur manière de vivre. Si vous pratiquez la méditation bouddhique sans changer votre manière de vivre, ça ne sert à rien. Enfin, pas grand-chose, ça ne vous fera pas de mal. Mais c'est sûr que ça ne donnera pas les résultats escomptés. Clairement. Oui ?
Mais en même temps...
J'aime quand ça commence par « mais ».
Je comprends. Non, mais je comprends très bien et en profondeur ce que vous dites, mais nous ne sommes pas tous, peut-être qu'on n'a pas, probablement, qu'on n'a pas ce désir d'arriver à l'état de bhikkhu.
Oui.
Mais juste, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut pratiquer, disons, d'une façon un peu plus modérée que dans le Theravada, parce que c'est quand même effrayant, quoi. Non, mais c'est vrai.
Non, ce que je dis, sur quoi...
Qui est capable de vivre comme ça, et dans notre société ici, mais même là-bas en Asie.
Alors, c'est justement là où je voulais en venir. Là-bas, en Asie, nous avons madame qui est thaïlandaise, qui pourra confirmer. Combien de gens pratiquent la méditation en Thaïlande?
Là, je vois si vous parlez sur... un peu entre Theravada et comment ça s'appelle là, il y a
comment on demande si combien de personnes,
oui voilà, c'est ça ce que je veux dire, parce que maintenant il y en a une autre, c'est pas tout à fait Theravada, mais c'était Wat Dhammakaya, mais il a fait beaucoup, mais Wat Dhammakaya, est-ce que c'était Theravada pur? Non, je pense pas.
Mais il y a combien de personnes autour de vous dans votre famille? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui pratiquent la méditation? Dans votre famille, simplement.
Dans ma famille, aucune.
Aucune?
Parce qu'il y en a une.
Et la majorité des familles thaïlandaises, vous n'avez personne qui pratique la méditation. En revanche, est-ce que vous pratiquez les préceptes?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait non plus. Et pourtant, ces gens se considèrent comme bouddhistes. Le problème, si vous voulez, c'est que si l'on veut regarder les textes et la tradition bouddhique telle qu'elle s'est transmise jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'il y a eu des grands changements au XXe siècle, les gens qui se considéraient bouddhistes sont ceux qui prenaient les refuges pour exprimer leur foi dans le Bouddha, pratiquaient le don, parce que c'était la première façon de montrer qu'ils étaient bouddhistes, c'était de soutenir la communauté des bhikkhus, parce que eux, les bhikkhus, ils avaient le cran de se lancer dans la pratique telle que le Bouddha l'enseignait. Et donc, ils méritaient d'être soutenus. Et les autres, ben, ils essayaient de le faire quand ils pouvaient. Donc, généralement, c'est à la fin de leur vie, quand ils allaient vivre dans la monastère parce qu'ils n'avaient plus de charge de famille. Ou alors, depuis le XXe siècle, on ouvre des centres, on ouvre certains monastères pour que les gens puissent venir de temps en temps faire des pratiques intensives de la méditation. Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau. Parce qu'on avait bien conscience que pour parvenir à cette pratique de la méditation, il y avait déjà un sacré boulot à faire avant. Et que tout le monde n'en était pas capable. Ce qui me gêne, et ce sur quoi je veux insister, c'est que commencer par la méditation, pour beaucoup de gens, sans savoir que traditionnellement c'est considéré comme le bout du chemin, c'est un petit peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Je veux attirer votre attention sur le fait que si vous voulez que la méditation vous apporte les bienfaits réels qu'elle est censée apporter, elle doit s'inscrire dans une pratique qui est une pratique constante. Si vous n'êtes pas capable de maintenir cette pratique constante parce que vous n'êtes pas un bhikkhu, je le conçois, et que vous n'avez pas envie de le devenir, n'attendez pas de la méditation qu'elle apporte grand-chose. Elle apportera ce qu'elle apportera, mais elle n'apportera le maximum de ses bienfaits que si elle est dans un ensemble de conditions qui permettent à ses bienfaits de se manifester. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Bien sûr qu'il n'y a pas aucun mal. Moi-même, j'ai été assis pendant une demi-heure et debout pendant un quart d'heure. Bien sûr que ça fait toujours du bien. Bien sûr que ça permet de développer la vigilance quand on le pratique correctement, ou au moins la diminution du stress. Mais ce n'est pas ça la méditation bouddhiste. Si on veut vraiment pratiquer la méditation dans le sens où le Bouddha l'a enseigné, c'est pour se libérer définitivement de l'insatisfaction. C'est pas de la gnognotte, je veux dire. Donc, le problème, le danger, et surtout depuis quelques années, je suis de plus en plus agressif, j'ose dire, mais d'un point de vue dharmique, c'est pour le bien de tous les êtres, parce que on est en train de connaître une dérive dans l'emploi du mot de méditation et des apprentissages qu'on appelle la méditation, qui sont catastrophiques. Parce que les gens n'étant pas capables de se hausser jusqu'à la vraie pratique de la méditation, on rabaisse la pratique de la méditation au niveau du plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'on en fait à actuellement la méditation bouddhique? Ce qu'on a fait au yoga hindou. Le yoga hindou, c'est un entraînement du corps par l'esprit de façon à libérer l'esprit du corps dans un but de réunion de l'atman avec le brahman. Qu'est-ce que c'est que le yoga en Occident? C'est une gymnastique de bien-être. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de la méditation bouddhique? Une posture de bien-être. Alors dans le yoga, il fallait encore souffrir un peu, il y avait des extensions, il y avait des... Alors là, même plus, il suffit de se poser. Alors on est dans l'apathie, hein, on laisse faire. Alors on se pose, et puis on laisse les idées passer. Alors, si c'est ça le bouddhisme, excusez-moi, mais un crapaud sur une feuille de nénuphar est Bouddha. Hein? Et je reprends une image qui est employée dans les textes bouddhiques. Hein? S'il suffisait de plonger dans le Gange pour se libérer de ses péchés, tous les crocodiles et les tortues seraient sans péché. Bon. Donc voilà, c'est ça que je crains. C'est ça qui me donne une sainte colère. Et c'est cela dont je veux vous avertir. Vous êtes ici, vous fréquentez une association qui relève du Theravada. J'en suis le président. Et je tiens à ce que cette association transmette les enseignements du Theravada. On ne vient pas ici juste pour se faire du bien. On vient ici parce que on est dans l'optique du bouddhisme, des enseignements du Bouddha. Alors, je ne demande pas un certificat à l'entrée. Mais je veux qu'on sache qu'en tout cas, les enseignements que je donne moi sont ceux du Theravada et ils sont dans la perspective du bouddhisme. Après, chacun se situe où il veut. Je n'arrête pas de dire depuis des années, moi, je ne suis pas un grand pratiquant de la méditation. Je sais donner des instructions de base. Je préfère enseigner sur les préceptes. Parce que ça fait 40 ans que je pratique les préceptes et que je sais le bénéfice qu'on peut en tirer. Voilà. Maintenant, vous êtes prévenus.
Quelle est la place des préceptes dans les autres traditions?
Il y a moins la présence des préceptes est moins forte puisque les autres traditions relèvent du Mahayana et que le Mahayana, lui, ne vise pas tant la pratique des préceptes que la pratique des paramitas. Dans le Theravada, c'est le précepte et paramitas ont une relation complexe puisqu'on ne préconise pas la voie du Bodhisattva pour tous les êtres. Mais en même temps, comme il y a eu une influence du Mahayana sur le Theravada, on dit malgré tout que si aujourd'hui on devient un pratiquant, c'est qu'on a pratiqué les paramitas auparavant, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Et on propose la pratique des paramitas, mais pas dans le sens où on l'entend dans le Mahayana. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que dans le Mahayana, c'est les paramitas d'abord. Et pour ceux qui veulent s'engager dans la voie du bhikkhu, dans le statut social de bhikkhu, dans ce cas-là, ils ont les préceptes du Vinaya. Mais si le Vinaya entre en contradiction avec les paramitas, c'est les paramitas qui prennent le dessus. Donc la pratique des préceptes est moins importante, alors que dans le Theravada, elle est fondamentale.
Et la méditation par rapport aux paramitas, chez eux, je veux dire
C'est important, c'est toute la méditation.
C'est le même chemin ou
non, c'est une autre pratique. Alors après, quelle méditation, dans quelle école du Mahayana? Parce que dans le monde indo-tibétain, on va retrouver des choses qui sont proches de ce qu'on enseigne dans le Theravada. Dans les écoles extrême-orientales, sino-japonaises, surtout quand on va du côté du Zen, on aura une présentation qui sera radicalement différente. Puisque, aussi bien dans le Theravada que dans le tantrisme tibétain, on va avoir samatha vipassana. Sauf que dans le tantrisme tibétain, samatha et vipassana sont considérés comme des pratiques préparatoires au tantra. Dans le Theravada, Vipassana est considéré comme menant à l'éveil, mais un éveil de la rate. Le tantrisme ne vise pas l'éveil de la rate, il vise l'éveil des parfaits Bouddhas. Donc il considère que Vipassana est insuffisant, mais qu'il est préparatoire pour la pratique des tantras, et que ce sont les tantras qui mènent à l'éveil des parfaits Bouddhas. Et dans le Zen, on considère la pratique de Zazen est un combiné de Samatha et Vipassana. Alors que dans le Theravada, comme dans le bouddhisme tibétain, on distingue la pratique de Samatha et la pratique de Vipassana. On ne fait pas une combinaison des deux. Donc chaque école a comme ça a ses spécificités. Et puis après, même au sein du Theravada, vous avez des lignées, des écoles internes au Theravada. La lignée Ubakin Goenka n'enseigne pas Vipassana de la même manière que chez Ajahn Chah, qui ne l'enseigne pas lui-même de la même manière que Mahasi Sayadaw, etc., etc. Et vous avez plusieurs lignées en Birmanie, en Thaïlande. Il suffit de prendre le bouquin d'Arma Vivante de Jack Hornfield. Vous avez une dizaine d'enseignements qui sont très différents. Et il ne cite que ces 10 là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Après, on peut rentrer sur des raisons. Goenka et Ubakin ont... D'un point de vue universitaire, on sait qu'en fait, cette lignée d'enseignement n'est même pas théravadine. En fait, elle vient des sarvastivadines, c'est-à-dire d'une autre école qui était au nord-ouest de l'Inde et un petit peu en Birmanie avant que le Theravada arrive. Donc en fait, ça a été inclus dans le Theravada aujourd'hui, mais son origine n'est pas théravadine. Si vous voulez vraiment la méthode de méditation strictement théravadine au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire celle qui vient de Ceylan, il faut lire Buddhaghosa, Visuddhimagga, ou les ouvrages aujourd'hui traduits par Gilbert Gaucher, c'est-à-dire les enseignements de Nipola Gunaratana, puisqu'il modernise l'enseignement du Visuddhimagga. Donc là, c'est vraiment l'enseignement du Theravada au sens le plus strict qui soit.
Les ouvrages de qui, je pense en
fait. Enepola Gunaratana. Ah. Méditer au quotidien, chez Marabout. C'est l'enseignement de Vipassana dans la tradition du Theravada au sens le plus strict du terme.
Mais c'est la forêt, non?
Pardon?
C'est pas la forêt.
Ah non, c'est Ceylan.
Ah, c'est le troisième.
C'est Sri Lanka. C'est Ceylan. C'est vraiment le pays du Theravada. Le Theravada, c'est une école de Ceylan.
En France, il n'y a pas en France...
Gilbert Gaucher, quand il vient ici.
Ceylan.
L'enseignement de Ceylan... Il n'y a pas de pagode sri-lankaise où l'enseigne la méditation. On ne l'enseigne pas vraiment. En revanche, si vous venez aux enseignements de Gilbert Gaucher, Gilbert Gaucher est le traducteur de Gunaratana et il transmet les enseignements de Gunaratana. Donc là, c'est vraiment l'enseignement pur du Theravada au sens historique. Même Ajahn Chah, c'est pas le Theravada pur historique, au sens le plus étroit du terme. Parce que le problème du mot Theravada, c'est qu'il est employé aujourd'hui pour désigner tous les bouddhistes d'Asie du Sud. Mais c'est que depuis 1950. Avant, le Theravada, ça désignait une lignée d'ordination bien précise. Et en Birmanie, elle était présente, mais il y avait d'autres lignées. En Thaïlande, elle était présente, mais il y avait d'autres lignées. Au Cambodge, elle était présente, mais il y avait d'autres lignées. Et depuis 1950, on dit que tout ça, c'est Theravada. Mais en fait, non. À l'origine, c'est pas tout ça, Theravada.
Adinsha, vous le situez où ?
Alors, il se situe au niveau de l'ordination, des règles d'ordination, dans l'école qui est strictement issue du Theravada. Mais la tradition des moines de forêt, elle, n'est pas d'origine strictement théravadine. La lignée type du Theravada, c'est justement celle qui considère les préceptes comme une pratique de méditation. Historiquement, on ne peut pas dire que ça soit la plus à la mode aujourd'hui. C'est pas celle qui est le plus visible. Mais quand vous lisez l'histoire du bouddhisme à Ceylan et la représentation du Theravada à Ceylan, parce que c'est quand même de là que ça vient, c'est ceux qui privilégient la pratique du Vinaya et l'étude des textes et ne pratiquent pas la méditation de Vipassana au sens où surtout pas des jhanas, une dévalorisation surtout des jhanas, de samatha, la méditation du calme.
C'est curieux parce que Gunaratana, il a publié quelque chose de très sérieux sur les jhanas.
Oui, non, mais il dit lui-même que ça lui est venu très tard.
Et c'est parce qu'il reprend, Gunaratana modernise le Visuddhimagga. Vous prenez le Visuddhimagga, vous prenez Gunaratana, c'est les mêmes enseignements, c'est les mêmes images, sauf que Visuddhimagga c'est illisible, et Gunaratana, c'est limpide. Alors, bien sûr, en plus, il rajoute son expérience personnelle. Mais sinon, ce qu'il enseigne, c'est strictement le Visuddhimagga. Et dans le Visuddhimagga, quand on lit Buddhaghosa, c'est très intéressant, c'est que dit que si on veut pratiquer les jhanas, il y a 3 pages d'explication sur toutes les conditions qu'il faut réunir pour arriver à les pratiquer, parce qu'à Ceylan, on n'y arrivera pas. Parce qu'en gros, il n'y a aucun monastère où c'est enseigné, que si on veut repratiquer les jhanas, on va se retrouver rebuté par tout le monde parce que c'est une méditation qui est déconsidérée, que de toute façon, dans les monastères, on ne pratique pas la méditation, donc d'ici à ce qu'on arrive à en trouver un qui soit suffisamment calme, on pourra le faire, il faudra aller au fin fond, que si on veut rencontrer un maître dont on sait qu'il est dans un monastère, il ne faut surtout pas demander aux autres moines où se trouve le moine, pourquoi on vient, parce que sinon on risque de se faire foutre à la porte, parce que ce sera forcément un moine qui ne sera pas considéré dans le monastère, parce qu'il est un pratiquant des jhanas, etc. Donc c'est un bon document sur l'histoire du bouddhisme à Ceylan, mais la tradition du Theravada donc, n'est pas favorable du tout à cette pratique des jhanas. Et pourtant, il y a la moitié du Visuddhimagga parle de cette pratique, parce qu'elle est très présentée dans les textes canoniques, mais elle n'est pas du tout perpétuée dans la pratique par l'école.
Vous savez, les textes sont
là. Ouais. Bien, écoutez, on a pris un peu plus de temps que ce qu'il fallait, comme d'habitude.